pour viol, 3 plaintes pour agression sexuelle et il sera jugé en octobre prochain.
Une plainte, c'est-à-dire que quelqu'un avait porté plainte, je crois, quelques jours avant qu'on parte. Nous sommes partis faire ce voyage, j'ai tourné un film de fiction. Alors tout le monde me dit, oui, c'est pas possible parce qu'un film de fiction, c'est un scénario. Mais si je vous citais le nombre de films dans l'histoire du cinéma qui ont été faits sans scénario, de Pierrot le Fou à In the Mood for Love, c'est une manière de faire du cinéma que de trouver le genre du film au montage. J'ai passé 3 mois au montage, j'arrive avec un film de 2h30, et le producteur, M. Anthony Dufour de chez Ikari, se dit, zut, on ne pourra pas sortir le film en salle comme prévu, puisque Gérard a des gros problèmes avec, aura des gros problèmes avec la justice. Qu'est-ce qu'il fait pour retrouver ses billes? Plutôt que de ne rien faire avec le film, plutôt que d'essayer de voir ce qu'on peut faire du film, sans me prévenir, alors que j'ai un droit moral sur mon film, il va à France Télévisions, leur propose un sujet sur Gérard Depardieu en disant « J'ai des images, oubliant que ce sont mes images, qui vont être détonnantes et scandaleuses. » Or, ce n'est plus ni moins que des images qui ont été arrachées à un film de fiction pour les mettre dans un film documentaire à charge contre Gérard Depardieu et avec cette bidouille dont j'attends encore que l'ARCOM enquête dessus, mais malgré mes lettres, l'ARCOM ne fait rien et France Télévisions, que je mets en procès, n'a encore pas répondu.
Eux, ils affirment, hein, solennellement, qu'ils n'ont absolument pas fait de montage, hein, et qu'ils n'ont pas mélangé ou dispatché ou décalé l'image et son.
Pauline, deux choses. Personne n'a jamais vu le constat de l'huissier. Jamais. J'ai demandé au tribunal, il y a un procès en ce moment, on n'a pas vu le constat de l'huissier. C'est très étrange. Et deux, Le Monde, le journal Le Monde Magazine, c'est pas moi. Le Monde Magazine a vu mon film et un des journalistes du Monde dit, effectivement, dans la version d'Yann Moix, on voit que Gérard Depardieu tient ses propos sur une femme de 35 ans.
Vous parlez des propos et ce qui a fait particulièrement réagir, les propos sont assez immondes, mais l'image, effectivement, qui est raccord dans Complément d'enquête, c'est que ces images assez immondes, ces propos immondes, sont au moment où c'est une fillette qui monte à cheval.
Vous avez, dans un montage, on peut faire absolument ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a une seule image?
Donc vous dites, attendez, oui. Yann Moix, je voudrais qu'on comprenne. Oui. Vous dites, oui, Gérard Depardieu a tenu ses propos, ses propos sur en regardant une femme,
exact,
mais non pas une fillette. Mais vous dites bien qu'il a tenu ses propos.
Il a tenu ses propos sur une femme de 35 ans.
Vous en pensez quoi, vous, de ses propos?
Ah bah, les propos sont ignobles, mais attendez, Apolline, des propos ignobles, sur, ou inexcusables, ou choquants, ou violents, ou sinistres, sur une femme de 35 ans, c'est une chose. C'est une chose. Sur une enfant, ça fait de Gérard Depardieu un criminel. Ça fait de Gérard Depardieu un pédophile. Ça fait de Gérard Depardieu un être qui est tout d'un coup puni pour quelque chose qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas. Et je trouve gravissime. Vous imaginez ces gens dans la boîte de production de chez Ikari qui tout d'un coup se disent « Mets les images sur la fillette, allez, vas-y, vas-y, mets les images sur la fillette. » Mais c'est d'une brutalité, d'une violence absolument inexcusable. Et ça, ça mérite un procès. L'ARCOM devra s'en expliquer, France Télévisions devra s'en expliquer.
L'ARCOM, c'est le gendarme de l'audiovisuel. Hein.
D'ailleurs, je peux dire quelque chose sur l'ARCOM.
Allez-y.
Je trouve qu'on est, on baigne dans l'immaturité la plus totale. Un pays comme la France a besoin d'avoir inventé une institution qui vient toute la journée regarder des émissions, par exemple, vient regarder Cyril Hanouna toute la journée pour savoir.
Donc vous avez été chroniqueur, hein, je précise.
Oui, oui. Non, mais je prends cet exemple, je peux en prendre.
Oui, oui, mais c'est important quand même de savoir mais aussi que vous êtes.
Non, mais peu importe.
Impliqué, j'irai.
Non. Je veux dire par là que j'ai toujours trouvé l'ARCOM, avant ça s'appelait pas l'ARCOM. Hein.
Ça s'appelait, je ne sais même plus, oui, là, le CSA.
Le CSA. Vous imaginez quand même qu'un pays comme la France, où il y a une liberté de parole, vous regardez les sites de l'INA, vous pouvez voir des gens qui fument, qui boivent et qui débattent.
On parlait de Bernard Pivot tout à l'heure.
Et qui débattent, parce que je vois quelque chose d'assez étrange, Apolline. J'imagine que vous avez souvent été voir des documentaires sur l'INA ou des vieilles émissions, oui, mais c'est quand même étrange qu'il y a une simultanéité du débat et de l'alcool et de la cigarette. Non mais c'est très étrange. L'ARCOM est une sorte d'âge de gendarme qu'on s'est inventé nous-mêmes pour nous fliquer nous-mêmes, comme si on n'était pas assez grand pour faire un travail de débat démocratique avec les débordements qu'on souhaite s'il le faut. Tandis que là, on a l'impression qu'on s'est inventé un gendarme
sur
mesure. Alors
en même temps, là, il vous arrange, si l'ARCOM. Enfin, en tout cas, vous espérez que l'ARCOM sera de votre côté.
Ce qui est très étrange, c'est que l'ARCOM essaye de punir mon avocat qui est allé expliquer la thèse du bidouillage de l'information. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que l'ARCOM fasse son travail. Pourquoi est-ce que l'ARCOM n'enquête pas sur le rapport de l'huissier? Pourquoi l'ARCOM ne travaille pas sur le bidouillage acheté par France Télévisions? Car je ne pense pas que ce soit France Télévisions qui bidouillait. Ils ont acheté un reportage à bidouiller.
Donc vous pensez pas que France Télévisions a sciemment...
Non, je pense pas que ce soit sciemment. Ils se sont retrouvés dans une impasse et depuis ils bottent en touche et ils cachent le rapport de l'huissier. Je demande à un expert indépendant pour analyser les rushs. Vous savez, Apolline, il y a des bandes de synchronisation sur les films. Donc c'est très facile de montrer que...
Yann Moix, vous le voyez toujours, Gérard Depardieu, est-ce que vous en parlez avec lui ?
Non, je ne le vois pas en ce moment, je n'ai pas de nouvelles. Je crois que Gérard, si elle m'en veut, de l'avoir emmené en Corée du Nord, parce que moi j'ai fait confiance à un producteur qui m'a trahi, mais Gérard, il m'a fait confiance à moi, pas au producteur. Donc indirectement, il se retrouve dans une sauce nord-coréenne, tout simplement parce qu'il m'a fait confiance.
Yann Moix, il y a le Festival de Cannes dans quelques jours et des rumeurs, un peu une sale rumeur qui court. Plusieurs s'en font écho, des journalistes qui disent qu'il y aura une liste, on ne sait pas très bien d'où elle sortirait, mais une liste de 10 nouveaux noms du Me Too du cinéma. Est-ce qu'il faut, comme ça, sortir des listes si effectivement les gens ont eu des comportements déplacés, voire même coupables? Est-ce qu'il faut que cette liste sorte? Est-ce qu'il faut purger?
J'y suis absolument défavorable. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, vous savez que je suis un ancien enfant martyr, etc.
Alors ça, c'est votre version, vos parents ont tenté de vous poursuivre. mais vous avez gagné, vous avez obtenu gain de cause.
Vous ne pouvez pas
la
dire...
Justice,
on m'a suffisamment accablé.
Ils n'ont pas pu vous poursuivre.
J'ai gagné mon procès.
Voilà.
C'est-à-dire que la justice a considéré qu'il y avait des éléments suffisamment sérieux pour considérer que j'avais été un enfant martyr. Donc j'ai gagné le procès. C'est un procès qui a duré 8 heures. J'y étais, mes parents y étaient, mes géniteurs, pardon. Donc je peux, s'il y a une justice. Et justement, c'est marrant ce que vous dites parce que vous êtes en train de dire que la justice finalement.
Non, ils ont tenté de vous. Je crois qu'il est factuel de dire que vos parents ont tenté de vous poursuivre pour diffamation.
Oui, donc il n'y avait pas diffamation. Donc ce qui prouve bien que ce que je racontais dans Orléans était la vérité. Non, je vais vous dire pourquoi je suis défavorable. Je n'ai aucun humour sur les violences, sur les enfants, sur les femmes, sur les animaux. Je ne mélange pas ces trois catégories, que les choses soient claires. Les violences faites aux femmes, les viols, les brutalités et même les incivilités, les mains aux fesses, les petits gestes qui sont en fait consubstantiels à un climat général de violence, il faut que ce soit fait avec beaucoup de méticulosité. Si ça bave, si ça déborde, alors le combat va être déconsidéré par approximation successive.
Vous avez peur que ça soit défavorable au mouvement MeToo et à la véritable liberté?
Exactement. C'est-à-dire qu'on a une chance incroyable, Apolline. On a une justice en France qui est certes débordée, mais qui fonctionne. On a une belle justice. On s'est battu, des gens sont morts. En 1848, en 1830, en 1789, en 1940, pour que cette justice puisse fonctionner. La République, c'est une chose, mais on oublie toujours que la République, c'est aussi la justice. Et on a une justice qui fonctionne très bien, une belle justice, et je trouve dommage que des gens pressés, et on peut comprendre que des victimes soient pressées, c'est humain, mais je trouve dommage que les victimes n'attendent pas, que les plaignants ou les plaignantes n'attendent pas quelques mois ou quelques années pour qu'on ait un rendu beau à regarder, c'est-à-dire quelque chose
précis, factuel,
qui est taillé comme un diamant, que la personne...
Après une enquête sérieuse,
parce que là, les personnes pourront être punies au prorata de ce qu'elles ont commises, et surtout, l'à-peu-près ne sera plus de mise. Et l'à-peu-près, c'est grave, parce qu'il y a aussi des gens qui se sont mal comportés, et ces gens-là ne peuvent pas être comparés à des gens qui se sont rendus coupables d'un crime. Et j'ai peur d'une assimilation, et j'ai aussi peur d'une chasse aux sorcières approximative. C'est l'approximation qui me fait peur.
Yann Moix, l'antisémitisme. Gabriel Attal, hier, parlait d'un mouvement qui s'était décomplexé. Il y a évidemment les mouvements qui se passent dans les facultés, des mouvements pro-palestiniens qui, d'après certains témoignages, seraient aussi une forme d'intimidation, voire d'exclusion de certains étudiants juifs. Vous le dénoncez aujourd'hui?
Je pense que ça ne recommence pas, l'antisémitisme. Je pense que la situation n'est pas plus grave qu'elle a toujours été. L'antisémitisme, pour moi, est un commencement. Ça a toujours été un commencement. Un commencement qui diffuse depuis 4000 ans ou 5000 ans. Mais ce n'est pas un recommencement. Il y a des périodes où on lève le tapis et on voit ce qu'il y a dessous. Des périodes où on rebat le tapis et on ne voit pas les acariens ou les poussières qu'il y a dessous. Mais ça n'a jamais changé.
En ce moment, ça se voit. Ce qui est étrange, Yann Moix, et vous l'imaginez bien, c'est qu'on a du mal à vous croire.
Pourquoi?
Parce que vous-même, vous avez été, et comment êtes-vous passé de l'étudiant...
Ah, vous en êtes encore là, Pauline?
Non, ça m'intéresse. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez, quand vous étiez étudiant, commis des dessins qui allait dans un antisémitisme épouvantable, avec des propos y compris négationnistes, avec une revue.
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, d'abord, là encore,
c'est... Vous dites d'ailleurs avoir eu honte de cela. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est de comprendre, a posteriori, vous êtes aujourd'hui un des premiers défenseurs, et vraiment un de ceux qui luttent contre l'antisémitisme, comment on a pu être antisémite?
D'abord, je ne l'ai jamais été. Jamais. Et pourquoi je n'ai jamais été? Parce que, en fait, vous me reparlez d'un truc d'il y a 5 ans.
Mais oui, mais c'est
ça
très
jamais
important.
Pris. D'ailleurs, ça
mais
n'a jamais pris cette polémique.
C'est très important de comprendre comment est-ce que vous passez de faire des dessins antisémites.
Alors, je vais vous répondre de manière brutale. La première, c'est que ces petites bandes dessinées, il y avait 4 numéros. Je redis pour la millième fois. Un, où je me parlais de la Shoah, je me moquais de la Shoah, si vous voulez, j'avais 20 ans. Ensuite, je me moquais de la faim dans le monde. Je me moquais, je crois, des handicapés, et je me moquais de l'abbé Pierre. Donc, en fait, c'était un petit journal qui se moquait de tous les tabous de l'époque, d'accord ? Dont les Juifs. Mais ce n'était pas une obsession. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le niveau, c'était du style Lucky Luke à Dachau et les Schtroumpfs à Auschwitz. Hein. Ce n'était pas un journal structuré, négationniste. C'était des sortes de pamphlets potaches, fanzine, si vous voulez.
Mais est-ce qu'il faudrait pas l'inverse, Yann Moix, dire
attendez,
okay,
mais attendez.
J'ai eu ces espèces de pulsions.
Mais je ne les ai pas eues. Si vous voulez, il faut quand même que vous considériez quelque chose. C'est sorti, j'avais 50 ans. D'accord ? Toute la journée, Apolline, on nous rebat les oreilles avec des gens qui ont failli tomber dans les marigots les plus sinistres quand ils avaient 20 ans et qui, tel habite en cité, tel en banlieue, et qui, au fur et à mesure des années, s'est arraché de sa gangue atroce pour devenir celui qu'il aurait dû être. Pourquoi je devrais être le seul dans ce pays qu'on ramènerait systématiquement à sa case de 30 ans...
Non, pas le seul, Yann Moix. Mais justement,
non, mais Apolline,
ce qui
Apolline,
m'intéresse
est-ce
aussi,
que, c'est... Non, mais juste, c'est... Est-ce qu'on a le droit... Admettons que vous ayez raison, d'accord ? C'est faux, mais pour le débat. Admettons que j'ai eu une phase abjecte. Pourquoi est-ce qu'un individu dans la société n'a pas le droit, par son travail, par son intelligence, par sa culture et par les connaissances qu'il déploie autour de lui, d'évoluer, de changer.
Je crois que vous en avez ce droit, mais c'est important aussi justement de pouvoir le raconter, de pouvoir dire comment on évolue.
Mais je l'ai raconté. En fait, il se trouve que là, c'est un malentendu parce que j'ai pas eu besoin d'évoluer. C'était des crises ponctuelles de provocation.
Vous êtes inquiet sur la situation aujourd'hui?
Ah oui, je suis très inquiet. D'abord, je considère que les étudiants de Sciences Po sont pour la plupart des gens qui auraient été incapables d'intégrer l'école il y a 15 ans, à l'époque où il y avait un concours.
Vous êtes un ancien élève de Sciences Po.
À l'époque où il y avait un concours. Donc là, on se retrouve avec une poignée de misérables qui intimident une direction qui est d'une lâcheté phénoménale, et qui a accepté de transiger alors qu'il y a quelque chose qui est un marqueur de l'époque. On ne retire pas quelqu'un d'une salle au prétexte qu'il est ou qu'elle est juive. C'est gravissime. Là, il y a un relent d'années 30 qui est que cette école qui a été inventée pour la tolérance, apprendre la démocratie, la République, et pour que le débat se perpétue, se retrouve maintenant dans la caricature, une sorte de Hezbollah portable ou de Hamas en bandoulière, et qui, toute la journée, agite une haine qui est impropre avec la culture des Sciences Po, qui s'appelait École libre des sciences politiques en 1872.
Merci Yann Moix, on restera sur ce mot de liberté. Yann Moix, votre livre Visa, c'est chez Grasset.
RMC, Apolline Matin.
Du lundi au vendredi, 6h39.
RMC, pour réagir en direct, 3216, touche 1.
Touche 1.
Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Avec Daniel Riolo. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Au parc hier soir dans l'after, en studio ce matin dans Apolline Matin. Et avec vous au 32-16 évidemment, hein, supporter du PSG. On vous attend, mais d'abord Daniel, on va revenir donc sur ce match d'hier soir. Nouvelle défaite 1-0 du PSG face à Dortmund. Paris qui ne verra pas la finale de cette Ligue des Champions. Pourtant, 30 tirs, 2 poteaux, 2 barres. Les Parisiens peuvent avoir quelques regrets ce matin.
Ah, les regrets, j'ai cru, j'ai eu peur que vous partiez sur l'argument de la chance, comme l'a fait l'entraîneur du Paris Saint-Germain hier soir. Vous me rassurez, parce que les regrets... Bon, oui, évidemment. Évidemment, parce que on a tous eu le sentiment qu'il y avait une très grosse opportunité qui s'offrait aux Parisiens, et ce... Dès le tirage au sort du tableau, puisque maintenant, quand on tire au sort en Ligue des Champions, on vous propose pratiquement un chemin vers la finale. Et jouer ce Barcelone-là cette année, enfin d'abord la Real Sociedad, puis Barcelone qui ne semblait pas être un monstre cette année, puis dans la foulée, le vainqueur de Dortmund-Atlético Madrid. Oui, on avait le sentiment, on l'a beaucoup dit, alors ce sont toujours des arguments qui sont un peu curieux parce que ça frise un peu l'irrationnel, les planètes s'alignent, j'ai beaucoup entendu ça, et c'est peut-être la bonne année pour le Paris Saint-Germain. Après le match aller où Paris avait perdu 1-0 mais en se créant beaucoup d'occasions, effectivement, il était facile de penser que la situation pouvait être retournée hier soir.
Mais alors, pas Daniel, ce c'est ce que tout le monde pensait. Il y avait beaucoup de confiance parmi les supporters, mais ça, c'est quelque part leur rôle d'y croire.
Ça, oui.
Même le coach, Luis Enrique, disait en français, on va gagner.
Moi, j'ai trouvé que c'était trop. On m'a expliqué, ou on a tenté de m'expliquer, qu'on a le droit parfois de changer de communication et l'auto-persuasion, ça peut aider, puisque le Paris Saint-Germain avait souffert ces dernières années, peut-être justement mentalement, en n'étant pas à la hauteur des rendez-vous et souvent en gérant mal ses émotions, peut-être qu'en répétant, en s'auto-persuadant, mais si on va se qualifier. Moi, j'ai pensé parfois, quand j'ai entendu ces derniers temps, aussi bien l'entraîneur que certains joueurs, être convaincus qu'on allait passer, qu'on allait gagner, je me disais, j'espère qu'en Allemagne, ce discours ne va pas arriver, qu'il va s'arrêter à la frontière, parce que si je suis dans la direction du Borussia Dortmund, entraîneur, dirigeant ou quoi, je n'ai plus qu'à prendre les phrases, je découpe, je colle dans le vestiaire, et j'ai dit, mais regardez ce qu'ils pensent de vous, ils pensent tous que c'est fait. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont déjà qualifiés. Il n'y a rien de mieux pour motiver une équipe dans le foot. Il n'y a rien de mieux dans le sport en général, d'ailleurs.
Il y a sûrement quelques erreurs commises par Luis Enrique dans la communication, peut-être dans le coaching, la tactique. Mais ensuite, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Il y a un joueur en particulier qu'on attendait hier soir, c'est Kylian Mbappé, qui a été transparent au match aller. C'était presque pire hier soir.
Alors, je pense que je n'aurai pas le temps ce matin, vu le temps qui nous est imparti tous les deux, de vous expliquer toute la saison de Mbappé. Mais je pense qu'au final, la gestion depuis cet été et le vrai faux transfert avorté jusqu'à aujourd'hui, avec étape très importante, ce qu'il s'est passé le soir de ce match de championnat à Monaco, où Luis Enrique, le soi-disant génial entraîneur du PSG, a pensé que c'était une bonne idée de lui fouetter son orgueil et de le traiter comme le dernier des derniers joueurs du vestiaire.
Je vais préciser, il l'a sorti à la mi-temps et on a vu Mbappé saluer les supporters.
Pour montrer son autorité, il pensait qu'il n'aurait pas de réaction vis-à-vis de ça et il a eu une réaction de Mbappé qui était peut-être encore plus stupide que l'attitude de Luis Enrique. Et quand la stupidité rencontre la stupidité, généralement ça ne donne pas quelque chose de bien. Je pense que ce soir-là, tout s'est fracassé et dans la tête de Mbappé, dans la tête de l'entraîneur et dans la tête du club. Ça a été l'aboutissement d'une gestion de dernier année de contrat de Mbappé complètement raté. La non-préparation physique de Mbappé cet été, puisque justement il y a eu toute cette rocambolesque histoire du vrai faux départ au Real Madrid, il l'a payé physiquement. On a l'impression d'un joueur qui n'avançait plus, qui n'était plus capable d'éliminer, qui était même un peu empâté. Je ne trouve pas qu'il était hyper fit et hyper en forme.
Il n'a pas fait de différence.
Et donc il n'a pas été bon, c'est vrai. Mais je crois que le principal responsable de toute cette situation, c'est le soi-disant génial entraîneur que le PSG a trouvé l'été dernier et qui s'avérera au fil des années, je pense, en fonction du temps qu'il va rester au PSG, peut-être la plus grosse supercherie que le PSG aura dégotée ces dernières années. Mais ça, c'est le temps qui nous le dira. Et je suis convaincu qu'on ira vers ça.
On va aller au 32-16 accueillir Jamal qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jamal.
Oui, bonjour Charles.
Ah mais ça me dit quelque chose Jamal, on s'est pas croisé hier soir?
Justement, on s'est appelé le matin et je vous ai dit qu'on pourrait, je serais au parc et on s'est croisé à la porte Seine.
Ah mais alors je vais être très précis, Jamal, vous étiez hier matin avec Apolline au 32-16, vous
disiez
ce soir
ça,
je fais la sécurité au parc, hier soir... Hasard des accès au parc, vous l'avez palpé, je peux le dire. Jamal m'a palpé hier soir avant d'être avec vous ce matin en direct au 32-16. Bon, Jamal, quand on est agent de sécu au parc, vous avez quand même pu jeter un coup d'œil au match ou pas?
Oui, j'étais sur le terrain, en fait, au terrain, mais deux joueurs, mais on a pu se voir un petit peu, voilà, mais on était vraiment, moi j'étais à côté du collectif Ultra Paris. Ouais. Vraiment, c'était chaud. On a cru vraiment à une qualification, mais les joueurs après, il y a des joueurs qui ont donné. Mbappé, il n'existait plus. Mais après la composition, moi, je suis avec Daniel. La composition, moi, je vois pas comment on peut laisser Barcola sur le banc, faire entrer Asensio chez moi. Après, c'est le coach qui décide.
Le coaching. Alors, j'aimerais dire un mot aussi, Jamal, parce qu'on a beaucoup pointé le fait que le PSG n'a pas marqué, mais le PSG a encore encaissé un but hier soir.
Et le
gardien de but, Daniel, Donnarumma, n'est pas vraiment une assurance tout risque pour le PSG.
On le sait, on le sait depuis longtemps. C'est un gardien qui, sur sa ligne, est au-dessus de la moyenne. Et qui, dès qu'un ballon est tiré sur un corner, enfin bref, un ballon aérien, vous avez un gardien qui devient mais affreusement banal, voire mauvais. Oui. C'est quand même incroyable qu'un joueur, il fait 2 mètres. Oui. Tous les ballons hauts, vous avez l'impression que d'un coup, il perd 20 centimètres. Il a peur d'y aller et évidemment qu'à chaque fois qu'il y a un corner, c'est un frisson qui parcourt le dos des supporters du Paris Saint-Germain en disant « ça va être dangereux ». Et hier, il y a eu un corner. Erreur de marquage, mais lui surtout, vous savez, quand vous apprenez le foot, quand vous êtes gamin, la petite surface qui est devant le gardien, les 5,50, c'est le domaine réservé, ça doit être privatisé par le gardien, il doit faire la loi dans cette zone-là. Déjà que, normalement, il doit faire la loi dans la surface. Mais là, même dans la petite surface, avec ses 2 mètres, il est même pas capable d'aller prendre un ballon en l'air. C'est totalement rédhibitoire. Parce que ce but-là, il a ruiné les espoirs d'une égalisation dans les dernières minutes, d'une fin de match un peu héroïque. Alors, quand derrière, on me dit, il n'y a pas eu de chance, il y a eu les poteaux. Mais peut-être aussi que... Alors, moi, je déteste quand on raisonne en termes de chance dans ces cas-là. Et le génial, soi-disant génial entraîneur du PSG, il a dit, entre frapper sur les poteaux et frapper dedans, la différence, c'est l'Esprit Saint. Bon, bah, si on s'en remet à Dieu, alors dans ces cas-là, déjà, il aurait dû le remercier pour ce pénalty tombé du ciel dans le dernier match de poule contre Newcastle. Il aurait dû le remercier, Dieu, quand Araujo a fait cette erreur stupide dans le Barcelone-PSG, qui a fait que le Barça a terminé le match à 10 et que c'était discutable quant à savoir s'il était à l'intérieur ou non de la surface de réparation, mais on a vu des arbitres ne pas siffler pour ce genre de faute-là. Bref, de la réussite, le PSG en a eu depuis le début de la saison. Si on doit s'en remettre à l'irrationnel, ce qui, à mon sens, est une bêtise, alors dans ces cas-là, on peut dire que le PSG avait usé de toute sa chance jusque-là.
En un mot, Daniel, si on se projette maintenant sur la fin de saison, là, le PSG est déjà champion de Ligue 1.
C'est fini, c'est fini.
Il y a quand même une finale
c'est
de Coupe
fini,
de France. Mais
une Coupe de France de plus ou de moins, qu'est-ce que ça va changer dans la vie du Paris Saint-Germain? C'est terminé. D'habitude, vous me direz, les saisons du PSG, elles se terminent au mois de mars. Là, on a poussé jusqu'au mois de mai. Parce qu'au final, jouer une demi-finale de Ligue des Champions, bon, vous êtes dans les 4 meilleures équipes d'Europe. Ce qui est regrettable, c'est que vous dites, bon, bah, Dortmund va aller jouer la finale. Dortmund, c'est une très, très bonne équipe, un très grand club. Mais c'est pas un club qu'on est habitué à voir en finale de la Ligue des Champions. Donc, vous vous dites, si eux, ils sont allés, comme l'Inter y est allé l'année dernière, bon, le PSG aurait pu y aller. Mais il aurait fallu faire des choix un petit peu différents. Choix que, n'a pas fait le soi-disant génial entraîneur du PSG.
Ouais, alors, bon, échec pour le PSG, mais on va ce matin célébrer l'after. Daniel, parce que Daniel, l'after est le premier podcast de France.
Oui,
on a eu
vrai.
Les chiffres hier et bravo oui. Daniel, bravo Gilbert, toute l'équipe
et
autour
toute
de
bande,
vous.
Toute
oui, tous les podcasts d'RMC d'ailleurs qui cartonnent, hein, première radio privée, 31 millions de podcasts téléchargés au mois d'avril. On va aussi saluer, on va être un peu chauvin, la performance exceptionnelle d'Apolline Matin, 24% de hausse en un an
magnifique.
Pour les podcasts, voilà, du matin au soir sur RMC. Vous êtes très nombreux à nous écouter en direct, mais là, tiens, peut-être que vous prenez la route pour un pont ou même un viaduc du mois de mai. Bah, n'hésitez pas, il y a les podcasts évidemment sur l'appli RMC. Vous retrouvez tous les meilleurs moments d'RMC en podcast sur l'appli. On remercie aussi Jamal d'être passé par le 32-16 ce matin et pour son accueil hier soir au Parc des Princes. Il est 8h25.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Mais oui, c'est tous les jours, même les jours fériés. On va se faire plaisir avec le meilleur d'Arnaud Demange. Tiens, souvenez-vous, ce jour-là, Arnaud nous parlait des 2 nouveaux chiens accueillis par Emmanuel Macron à l'Élysée.
Oui, voilà, 2 nouveaux toutous baptisés Riester et Guérini. qui ont rejoint Nemo. Non, je plaisante, Riester et Guérini, c'est des ministres. Les chiens, en vrai, ils s'appellent Jules et Jeanne. Ça devait être l'année des J. Moi, à la place de Macron, j'aurais choisi Jordan et Jean-Luc. Rien que pour le plaisir. Jordan, Jean-Luc, couché, sage, au pied. Jordan, non, on ne sent pas le cul de Poutine. Jean-Luc, tu vas pas faire n'importe quoi avec la bande de gazon. Tu arrêtes. Alors, les deux nouveaux chiens ont été dévoilés sur Instagram par la photographe officielle de l'Elysée, ce qui va encore faire des drames sur CNews. Hein. Mathieu Boccoté, il va s'énerver. Tabernak de Chris-Emmanuel Macron, qui héberge un couple d'Afghans à l'Elysée, des lévriers talibans qui ont accès à tous les secrets d'État de notre pays, si boire. Alors qu'il aurait déjà pu, il aurait pu choisir un berger allemand catholique, déjà qu'il nous impose Aya Nakamura et sa levrette tabernacle de Chris de Cibor. On espère que les chiens sont prévenus. Si Emmanuel Macron fait trop de coupes dans les budgets de la culture, Rachida Dati va débarquer dans son bureau pour en faire des kebabs.
Oh, ouais.
Et de chiens. Rachida, je pense qu'on va devoir tailler un peu dans les budgets. Qu'est-ce que t'en dis ?
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Elle devient de plus en plus dure à gérer, Rachida.
De plus en plus de procès, Arnaud, s'abonne à ce qu'on surnomme la pornographie immobilière.
Oui, ça donne à ça. Alors, ce sont des Français qui passent des nuits à regarder des petites annonces immobilières en fantasmant sur des baraques qui pourront jamais se payer. Alors, bon, ça se fait dans tous les coins de France. À Paris, c'est une sexualité plutôt passive. Avec l'immobilier, c'est plutôt toi qui te fais ken. Mais en tout cas, les sites d'immobilier s'adaptent. Tu veux explorer les maisons les plus chaudes de ta région? Découvrir leur extérieur comme leur intérieur? Avec ou sans poils? Pour une chaleur diffuse et constante? Alors, rejoins les haussmanniens à poutres apparentes les plus sexy de ton arrondissement. Viens découvrir les chaudières de ta ville. Viens admirer les plus beaux volumes de ton secteur. Et noue des relations pour une vie de plaisir. Et là, tu lances une vidéo coquine. Et ma moquette, tu l'aimes ma moquette?
Oui.
Et mon balcon, tu l'aimes mon balcon? Tu trouves qu'il est assez gros?
Oui.
Et mon revêtement antifongique pour empêcher les moisissures et les champignons? Tu l'aimes mon revêtement antifongique pour empêcher les moisissures et les champignons? Oui, bah on va plus regarder les petites annonces immobilières de la même façon. Hein. C'est très nouveau comme tendance.
La presse Brigitte Macron ferait une apparition dans la saison 4 de la série Emily in Paris.
Ouais, sur Netflix. Alors, c'est pas la première fois qu'une première dame participe à un tournage. On se souvient, Carla Bruni qui a tourné pour Woody Allen, ou Julie Gayet dans le film. Son film, là. Quelqu'un se souvient d'un film avec Julie Gayet ou... Je suis presque sûr qu'elle en a tourné. Hein. Mais c'est l'occasion d'un petit quiz. Ces personnalités politiques ont-elles joué au cinéma? A gagné deux places pour aller voir Les Tuches 5 avec Nadine Morano.
Oui.
Alors, ces personnalités politiques ont-elles joué dans un film? C'est parti.
On y va.
Allez.
Adrien Quatennens a joué un boxeur amateur dans Rocky VI.
Non.
Gabriel Attal a joué un lycéen dans un film de Christophe Honoré.
Non.
C'est vrai,
la belle personne. Jean-Marie Le Pen apparaît dans Black Micmac en 86 avec Isaac de Bancolet.
Non,
quand même pas, faut pas exagérer. François Hollande apparaît dans Edge of Tomorrow avec Tom Cruise.
Avec Tom Cruise,
ils ont pas une scène ensemble.
Ouais,
dans L'Homme Invisible, on ne voit pas Christophe Béchu. Oui. Et c'est normal. Bruno Le Maire a joué une scène avec Thierry Lhermitte.
Oui,
c'est vrai, c'est dans Quai d'Orsay.
Oui, absolument.
Exactement.
Ah, oui.
Bernadette Chirac a joué une scène avec Rocco Siffredi dans Tassement de vertèbres à l'Elysée.
Non.
Roselyne Bachelot a joué dans Nos chers voisins.
Oui,
c'est vrai. Lionel Jospin a joué une scène avec Sarah Forestier.
Oui, c'est vrai ça.
Oui, le nom des gens. Jack Lang a joué une scène avec Sophie Marceau.
Oui.
Oui, c'est vrai aussi. Un bonheur n'arrive jamais seul. Et enfin, Alain Juppé a joué une scène avec Sophie Marceau, Béatrice Dalle, Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Grâce de Capitani, Marion Cotillard. Car à une époque, il avait un certain succès auprès des femmes. Malheureusement, non.
RMC, Apolline Matin.
Du lundi au vendredi, 6h39.
Si un jour, vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Le samedi soir, 19h-20h30 sur RMC, c'est Stephen Time. Avec Stephen Brun et Benoît Boutron, ne ratez rien de l'actu sport de la première partie du week-end. De nombreux invités, des débats enflammés et forcément, beaucoup d'humour. RMC, Stephen Time, ce soir, 19h-20h30. RMC au 3216,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 73216,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ?
Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
À Marseille, évidemment, l'enthousiasme est en train de monter. On trépigne d'impatience. La flamme olympique débarque ce soir dans le Vieux-Port. Journée olympique, journée historique pour la France à vivre aujourd'hui sur RMC. Et on veut vous entendre ce matin au 32-16. Hein, la flamme qui arrive, est-ce que vous, ça vous enflamme? On a un sondage, Elab pour BFM TV, paru hier soir. Alors, quand on regarde l'ensemble des Français, c'est pas forcément l'énorme engouement. Il y a 46% des Français qui expriment leur indifférence. Un tiers sont sceptiques. On a quand même un bon quart des Français qui font déjà part de leur enthousiasme avec l'arrivée de la flamme et l'approche des JO de Paris 2024. Bah tiens, ce sondage, on va le mener sur le plateau. Ce matin, Nicolas Poincaré, Emmanuel Le Chypre, Estelle Gass, Sébastien Krebs, enthousiaste, sceptique, inquiet peut-être, Nico ?
Moi, je suis pas encore dedans. L'arrivée de la flamme, par exemple, ça me touche pas vraiment. C'est pas historique, comme on le dit. La flamme, c'est seulement depuis l'avant-guerre que ça existe, cette tradition. Enfin voilà, je suis pas encore vraiment dedans. J'attends les Jeux. Je suis assez curieux de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. J'ai très envie de regarder. Et puis, je pense que je commencerai à m'enflammer, à m'exciter quand on verra, par exemple, Léon Marchand dans la piscine. Quand, par exemple, Léon Marchand a 3 médailles d'or, là, je serai là.
Ah oui, il faut attendre 3 médailles d'or pour que Nico s'intéresse au JO. Manu Le Chypre.
Oui, moi, le tralala, là, ça me touche pas beaucoup. Bon, il y a quand même un tel décalage entre les valeurs qu'on veut nous véhiculer et puis toute la marchandisation qu'il y avait rien. Moi, je suis un peu gêné par tout ça. Par contre, je suis comme Nico sur les épreuves sportives.
Sur le sport.
Moi, ça va commencer vraiment le jour de la cérémonie d'ouverture.
Et là, on sera
à fond.
C'est vrai que là, on est dans beaucoup les problèmes, les inquiétudes, les soucis, les inquiétudes sur les transports, les contraintes que ça peut poser notamment à Paris. Mais là, aujourd'hui, à Marseille, il y avait Momo tout à l'heure qui nous disait, Marseille est bouclé. Là, j'ai hâte que ce soit terminé, cette histoire de flamme, pour qu'on puisse circuler un peu
ça
tranquille.
Va être magnifique aussi ce soir.
Et quand on va rentrer dedans, je pense que ça va monter, ça va être une fête. Moi, j'ai envie de rester positive, je pense que ça va être génial.
Estelle ?
Pour ma part, je suis hyper enthousiaste des cérémonies, un peu moins sur les épreuves sportives.
Ah bah voilà, le panel est complet dans ce studio, mais évidemment, vous vous installez quand vous voulez autour de la table avec nous. C'est ce que fait Mario tout de suite, qui nous appelle du Gard. On est à Bagnols-sur-Cèze, c'est ça Mario ?
Eh bien le bonjour à la belle équipe de RMC, ça va bien ?
Salut Mario, comment ça va vous ce matin ?
Ah ben moi je suis triste, je suis habillé en noir et je tiens à vous te présenter toutes mes sincères condoléances pour la perte énorme du PSG.
Mais par contre
pour te réjouir quand même, je vais dire vai Atalanta, parce que je suis de ces deux chez moi, Bergamo et franchement, Atalanta, ils vont démonter Marseille. Voilà.
Ah bah dis donc Mario, ok, ça c'est pour la partie foot, tout ça c'est noté.
Voilà.
Mais les JO, la flamme qui débarque à Marseille aujourd'hui. Mario, est-ce que c'est le déclic là ? Est-ce qu'enfin vous vous enflammez pour les JO ?
Ah ben, comme a dit Manu Le Chypre, moi je vais être bien quand les épreuves sportives vont commencer. Par contre aujourd'hui, je vais écouter RMC parce qu'il le faut. Et surtout, j'espère que le BLM ne finira pas comme la sardine qui a bouché le port de Marseille.
Non, il va être bien escorté. Et ben alors justement, vous faites le bon choix Mario pour vivre cette journée historique sur RMC. Je vous dévoile un peu le programme, je vous spoil un peu la suite, mais ça vaut le coup d'être là toute la journée parce que évidemment, il y aura plusieurs rendez-vous, les GG dès 9h en direct du musée du Mucem à Marseille de 9h à midi, et parmi les invités, il y aura David Douillet, l'humoriste Redouane Bougaraba qui va notamment porter la flamme, la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache et puis les copains du Super Moscato Show qui posent leur valise aux premières loges sur les quais du Vieux-Port de 15h à 18h, des invités exceptionnels, Didier Drogba, le rappeur marseillais Soprano, et puis ensuite il y aura même une radio digitale pour ne rien manquer de l'arrivée de la flamme sur le sol français ce soir à partir de 18h. Vous ne manquerez rien évidemment sur RMC et sur l'appli RMC. Mario, ne bougez pas, il y a aussi Magali qui nous appelle de Royan, Charente-Maritime. Salut Magali.
Bonjour l'équipe.
Salut Magali, vous aussi, dis donc levez tôt. Je rappelle, on n'aurait pas tendance à l'oublier qu'aujourd'hui c'est un jour férié en France, nous sommes le 8 mai. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses et les lève-tôt sont là sur RMC avec vous. Magali, d'abord, comment ça va ce matin Magali ?
Ça va, j'ai une petite chanson pour vous. Ta-da-da-da, goodbye. Comme d'habitude, Charles, okay. Vous l'avez dit hier.
Allez, le chambrage pour commencer. Et alors du coup, Magali, supportrice de l'OM, j'imagine ?
Tout à fait. Et puis Marion, on se rappelle vendredi pour fêter notre qualification.
Oui, voilà. Sûrement. C'est tout le mal que je vous souhaite. Mais aujourd'hui, Magali, à Marseille, aujourd'hui, on fête la flamme.
Ah oui, ça va être beau. Ça, je l'attends.
Ah, vous l'attendez particulièrement ?
Ça va être un beau spectacle. Un peu plus que la cérémonie d'ouverture à Paris. Bon, allez.
Ouais, d'accord. Jusqu'au bout, voilà. C'est aujourd'hui le grand spectacle. Bah, ça va surtout être une sorte de, comment dire, de répétition générale, hein, parce qu'il y a aussi des défis, oui, d'organisation, de sécurité, évidemment, et ce sera une répétition générale avant. Alors, oui, la petite cérémonie d'ouverture du 26 juillet, Magali, je ne veux pas vous vexer, mais voilà, il y aura un peu plus d'enjeux. Mais Magali, est-ce que, du coup, voilà, avec cette flamme qui arrive à Marseille, pour vous faire plaisir, Magali, est-ce que ça vous fait rentrer dans les JO, là ? Est-ce que vous avez hâte d'y être ?
Bah, comme je disais à Quentin, nous on est un peu loin en Charente-Maritime, hein, on n'est pas trop dedans. Mais après, moi j'attends quand même les épreuves collectives, tout ce qui est basket, avec Wemby, le foot, avec peut-être Mbappé, allez.
Allez, pourquoi pas Mbappé, oui, sur le maillot bleu, on est tous derrière lui.
Voilà.
Magali, ah bah tiens, on va, bah justement, vous le dites, à Royan, on est un peu loin des festivités. Et ben, on va aller au plus près, à Marseille, retrouver Christophe, qui nous appelle au 32-16. Bonjour Christophe.
Et bonjour à l'équipe, comment ça va ?
Eh ben nous ça va bien, mais vous Christophe, racontez-nous à Marseille là, à 6h48. Je sais pas si vous êtes déjà dehors, quelle est l'ambiance ?
Ah ben là c'est calme, mais pour le moment, moi je viens de finir le boulot. Et non ça va, pour le moment c'est calme, ça prend doucement, ça prend place.
Ouais, est-ce que tout est... Parce que ça fait quand même plusieurs jours là, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais j'imagine que ça fait quelques jours que les installations sont en place là Christophe.
Ah ben ouais, moi tu sais, j'évite un peu le centre-ville parce que bon, c'est tout bouclé et tout, donc tu peux même pas rouler, donc voilà, à part le transport en commun, mais sinon non, voilà, on a vu un beau feu d'artifice hier soir.
Christophe, j'ai une question, moi, bêtement, quand on est Marseillais et qu'on veut voir la flamme, c'est possible ou il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, ça se passe comment pour les spectateurs?
Alors écoute... Moi, je vais me mettre ce soir sur la corniche. Et après, j'irai peut-être jouer à pied, parce que bon, en voiture, ça ne va pas être possible. 150 000 personnes sur le Vieux-Port, ici, il n'est pas très, très grand. Voilà, ça va être, il va y avoir du bonheur.
Oui, il va y avoir du monde. Depuis la corniche, c'est pas bête pour voir l'arrivée du BLM, Christophe. Et puis j'imagine qu'il y a un peu de fierté hein, de voir la flamme débarquer en France, à Marseille.
Bien sûr, en plus avec toutes les personnalités qu'il va y avoir. Il va y avoir Dineco, il va y avoir Florent Manaudou, Soprano, enfin voilà, la belle crise de Marseille, impeccable.
Voilà, la fierté, oui, impec. Voilà.
Et au Vélodrome. Demain, la flamme va au Vélodrome ensuite. Hein, elle va se balader dans Marseille et elle sera au stade Vélodrome demain soir.
Un petit tifo spécial Dortmund, comme ça.
c'est le triplé, c'est le hat-trick avec Marco, Magali et Christophe qui ont tous salué la défaite du PSG hier soir. Mais Christophe, merci d'être venu partager avec nous un peu d'ambiance voilà, ce matin du côté de Marseille sur le Vieux-Port. On y sera évidemment toute la matinée en direct et toute la journée, vous l'avez bien compris. Les GG au Mucem, le Super Moscato Show sur le Vieux-Port. Merci Christophe, merci Magali, merci Marco d'être passé ce matin au 32-16, de nous dire si vous aussi, vous êtes déjà enthousiaste. Est-ce que cette flamme qui arrive en France, ça vous enflamme en vue des JO? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
La flamme arrive, les Jeux arrivent et rentrent dans la vie des Français. Cette flamme olympique, elle va maintenant passer à travers 400 communes. Ce sera Marseille, ce sera Paris, la Seine-Saint-Denis, ce sera Tahiti pour la vague, Châteauroux et tant d'autres communes. La flamme est là, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont là dans la vie du pays, dans la vie de la France, on peut être fier. C'est la fête des Françaises et des Français.
C'est la fête, oui, des Françaises et des Français, dit Emmanuel Macron. Alors est-ce que vous, ça y est, vous comptez participer à cette fête des Jeux Olympiques? Ça commence ce matin, hein, le départ du relais de la flamme à Marseille. On va le vivre ensemble tout à l'heure en direct à 8h20. Et elle partira de Marseille, mais elle passera ensuite partout en France, en Outre-mer, 400 communes. Est-ce que, tiens, ces images exceptionnelles hier soir à Marseille vous ont donné des frissons peut-être d'abord, de la fierté et puis envie ensuite de participer, d'accompagner ce relais de la flamme autour de chez vous? Est-ce que, tiens, aussi ce choix de Jul comme dernier porteur pour allumer le chaudron hier soir, qui ont fait un peu polémique aussi, hein, on va le dire, hein, on fait réagir certains depuis hier soir. Est-ce que vous, ça vous a plu ou pas? Je vais commencer par un petit tour de table avec toute l'équipe. Nicolas Poincaré vient de nous rejoindre. Salut Nico.
Bonjour.
Évidemment, Nicolas n'a rien manqué de cette cérémonie.
Évidemment.
Combien de temps, Nicolas, pour reconnaître Jules à l'image?
Jusqu'à ce que les commentateurs disent de qui il s'agissait.
Non,
je vais pas vous mentir, ça, c'est pas ma génération. Ça me parle pas beaucoup, j'aurais préféré Zizou. Mais je comprends bien que c'est quelqu'un d'important à Marseille et j'ai absolument rien contre.
Alors, choc des générations, je me tourne vers Estelle Gass, la plus jeune de la table. Estelle, qui a mis un peu moins de temps, je pense, à reconnaître Jules. Oui. C'était un bon choix, Jules, pour allumer?
Je pense, et surtout, je pense que c'est un bon choix pour inclure toutes les générations aujourd'hui.
Manu?
D'abord, moi, je voulais dire quand même qu'un petit mea culpa par rapport à hier, parce qu'hier, avec Nico, on disait, ouais, bon, la flamme, c'est pas ça.
Ouais, je vous sentais bougon tous les deux hier.
Mais franchement, les images étaient absolument sublimes. Bon, moi, je suis un fan de la Patrouille de France, en plus. Donc, quand on les voit passer sur le Bel Air, c'est magique. Et Jules, on le reconnaît tout de suite, puisque, en fait, à la télé.
Il était pas caché, en fait, ils l'ont montré.
Il était pas caché. À la télé, on voit très vite les images de face. Et donc, sa tête, elle est quand même connue.
Il n'y a que les fins connaisseurs de rap français comme Manu qui l'ont reconnu au premier coup d'œil.
Mais non, c'est un chanteur de variété.
Il y avait quand même du suspense. Et puis bon, c'est vrai que ça a fait quand même une énorme surprise, je pense, à Marseille. Moi, Jules, ça me parle. Moi, je suis un peu comme Nico, ça ne me parle pas du tout. Je ne comprends même pas ses paroles, je pense. Mais je comprends le phénomène que ça représente à Marseille quand tu vois qu'il remplit le Vélodrome en quelques secondes.
Et puis, on a vu l'engouement sur place. On a entendu
les Marseillais et c'est toute la jeunesse aussi et les milieux populaires de Marseille aussi. Ça parle à tout le monde.
Marseille, mais toute la France qui s'est enflammée hier. On va accueillir tout de suite Madeleine au 32-16, Madeleine qui nous appelle de Cholet. Bonjour Madeleine.
Bonjour à toute l'équipe.
Alors, oui, Madeleine, moi je fais Cocorico.
Vive Marseille et vive les Jeux Olympiques. C'était fantastique, c'était merveilleux de revoir ces athlètes que l'on avait suivis, de voir cette flamme olympique sur ce chaudron allumé par Jules. Oh, ça, c'était beau. Ensuite, j'ai craqué. Celui qui a mon cœur, c'est la Patrouille de France.
Ouais, magnifique.
Moi aussi.
Magnifique, la Patrouille.
Les anneaux olympiques, c'était une première. Hein. Il l'avait jamais
fait. Les loopings.
Et les Français sont souvent premiers en tout, monsieur.
Oui. Madeleine, on aime bien râler, là, depuis des semaines, des mois. Mais alors, une fois qu'on y est, on se régale.
Moi, je ne râle jamais avant, je râle après pour critiquer si c'est moche. Mais tandis que là, c'était positif de voir toute cette jeunesse, de voir tous ces gens positifs, dynamiques et tout. Et bien que je n'ai que 75 ans, ben, j'aurais aimé être là-bas pour pouvoir danser, pour pouvoir crier. Vive la France, vive les Jeux Olympiques et surtout vive les athlètes. Et il y avait aussi ce bateau magnifique.
Ah, le Bélème, c'était magnifique aussi. Bougez pas Madeleine, j'aimerais qu'on donne la parole à tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme ce matin. Je vois Christian qui nous appelle de Toulon dans le Var. Comment ça va Christian ce matin?
Bonjour, ça va bien, merci Charles. Merci, bonjour à tout le monde.
Toulon, bonjour. Vous allez avoir la flamme demain, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, hein, la flamme. Aujourd'hui c'est Marseille, elle part dans le Var dès demain. Hein.
Voilà, exactement. J'irai la voir. J'irai voir le passage de la flamme demain sur la place de la Liberté ou ailleurs, sur peut-être Port-Marchand. Voilà, ça dépendra. Voilà.
Et cette cérémonie hier soir, Christian, vous l'avez suivie?
Oui, je l'ai suivie, enfin en différé, mais j'ai regardé. Effectivement, c'était très très enthousiasmant. Je trouve que c'est bien pour la France, pour l'image de la France que ça véhicule. Et puis voilà. Donc, je trouve que c'est aussi un bon choix à propos de Jules, simplement pour Jules, comme il était dit sur le plateau, c'est l'image de la jeunesse. Et Zidane, ça parle, mais ça parle à une certaine génération. Zidane, c'était 98, c'est déjà loin.
Ça, c'est vrai, Christian. On en a débattu dans la rédaction cette nuit. Moi, je disais, vous savez, pour les ados de 15 ans, même quand on a 20 ans aujourd'hui, on n'a jamais
Marseille
vu jouer Zidane.
Hein. Jeune.
C'est un peu comme Platini pour ma génération, on ne l'a jamais vu jouer. Alors, je comprends le symbole, mais si on veut mobiliser les jeunes, les ados aujourd'hui vers les JO, c'est plus parlant pour eux, Jules ou même Soprano le soir, que Zidane. Après, il y a encore du suspense sur les derniers porteurs. Mmh. Je sais que Nico a mis une petite pièce sur Zidane en dernier porteur, c'est ça, à Paris, le 26.
Le vrai dernier porteur, celui qui rentre dans l'histoire, c'est celui qui allume la flamme à Paris.
Il y a quand même des indices, qu'il y a quand même un certain nombre de personnalités qui sont déjà annoncées comme étant porteurs sur le parcours jusqu'à arriver à Paris. Ceux qui ne sont pas encore sur la liste, Marie-Jo Pérec, Zinedine Zidane, on peut s'attendre à ce qu'on les voit peut-être le jour de la cérémonie d'ouverture.
Du suspense. En attendant, toute la France va pouvoir voir la flamme. Bon, vous, Christian, vous avez de la chance, vous la verrez avant nous. À partir de demain à Toulon, elle démarre ce matin, tout à l'heure, à 8h20 en direct sur RMC. Et puis alors, Madeleine, on a vérifié, elle est dans le Maine-et-Loire. La flamme, elle passe courant mai, c'est ça? Le 28 mai, Madeleine, si vous voulez la voir. Je ne sais pas si vous pouvez faire le déplacement, Madeleine.
Je suis handicapée, monsieur. Ah,
ça va être plus compliqué, Madeleine, pour vous, mais en tout cas, elle passera. Il y aura forcément de la ferveur locale du côté de Cholet. Elle sera aussi du côté d'Angers, me dit-on. Bref, Madeleine, en tout cas, on sent que vous allez vibrer, là, que c'est parti. On est tous en mode olympique, désormais, depuis hier soir. Ces JO, vous allez aussi, évidemment, les vivre sur RMC, radio officielle de l'événement. Et puis, on va suivre, hein, évidemment, tous les jours, le relais de la flamme. Mais ce matin, on a déjà hâte. Ce sera à 8h20, Notre-Dame de la Garde. On va vivre ça. Et puis, on sera même avec un porteur de la flamme, non pas Zinedine Zidane, qui pour l'instant n'est pas confirmé, mais un autre footballeur presque aussi talentueux que Zizou, Eric Dimeco, tout à l'heure avec nous à 8h40.
RMC, Apolline Matin,
du lundi au vendredi, 6h39.
Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC.
RMC, les week-ends de 9h30 à midi, les GG passent le relais aux grandes gueules du sport.
2h30 d'échanges, d'analyses, d'opinions avec une équipe de champions.
Denis Charvet, Marie Martineau, David Douillet, Marion Bartoli, Jérôme Pinault et bien d'autres.
Autour de Jean-Christophe Drouet. Les grandes gueules du sport, les samedis et dimanches, désormais 9h30 midi sur RMC. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Le relais de la flamme olympique a débuté. On a vu Basile Boli transmettre la flamme à Colette Cataldo. Ça y est, la flamme est partie de Notre-Dame de la Garde. Plusieurs grands noms vont se relayer tout au long de la journée. On voit en direct, hein, sur RMC Story la flamme descendre les marches de Notre-Dame de la Garde avec Basile Boli, puis Colette Cataldo. Mais ensuite, dans la journée, Jean-Pierre Papin, Didier Drogba, Soprano vont porter la flamme, mais aussi un certain Eric Dimeco. Bonjour Eric.
Salut Charles, salut à tous.
Alors Eric, j'ai envie de te demander d'abord si t'as bien dormi, quel est le sentiment ce matin ? Est-ce qu'il y a un peu de stress quand on sait que dans quelques heures, on va brandir la flamme olympique ?
Non mais le stress, il est depuis un moment, hein, depuis qu'on m'a demandé de porter cette flamme, je suis stressé. Donc la journée d'hier a été très longue, hein, j'ai bien dormi cette nuit, mais ce matin, en regardant toutes ces images...
Ah, on t'a perdu je crois. Ah, Eric. Oui, on t'entend bien là, ça y est. Raconte-nous, Eric, à quelle heure précisément, parce que j'imagine que c'est millimétré, tu sais exactement à quelle heure tu vas avoir la flamme, où tu seras, jusqu'où tu dois courir, etc.
Alors, ça va se passer autour du stade Vélodrome et mon passage est prévu à 19h09. Alors, sachant qu'il y a une petite incertitude.
Ah, Eric, on
voilà, ça va être...
On te perd, on a un problème de liaison, Eric. On va essayer de te rappeler, peut-être que ça passera mieux au téléphone. Mais j'ai bien noté l'horaire, 19h09. Moi, je vais suivre ça, évidemment, et on le suivra en direct sur RMC. On a un deuxième invité qui est lui aussi un acteur essentiel de cette journée, de ces Jeux. C'est Victor Lemann. Bonjour, Victor Lemann.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, ça passe bien par téléphone. Je vous entends bien. Et on va entendre surtout... Avec vous, Victor Lemann, de la musique, parce que vous êtes le compositeur de cette musique, celle qu'on entend, celle qu'on a découverte hier, quand Florent Manaudou est descendu hier soir du Bellem avec la flamme olympique. Vous êtes le compositeur de la musique officielle de ces JO de Paris 2024. Victor Lemann, racontez-nous, ça fait combien de temps, parce que le secret était bien gardé, combien de temps que vous travaillez sur ce thème, sur cette musique qui s'appelle Parade ?
Je crois que j'ai commencé à travailler peut-être en mars de l'année dernière, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un an, mais je suis également directeur musical et compositeur de l'ensemble des cérémonies olympiques et paralympiques. Donc il y en a quatre, ouverture, clôture et ouverture, clôture, paralympique. Et ça, donc Parade, c'est une des musiques que l'on entendra pendant les cérémonies, mais c'est vrai que c'est comme si c'était la bande-annonce, c'est la première sortie, et je pense qu'on va l'entendre beaucoup, je suis très fier.
Ah bah oui, on va forcément l'entendre beaucoup, notamment sur RMC, radio officielle de ces Jeux Olympiques. Mais hier, vous l'avez joué en plus, en direct, du côté du Vieux-Port à Marseille. Forcément une émotion particulière à ce moment-là, non, de pouvoir enfin jouer, enfin dévoiler cette chanson.
Ouais, c'est incroyable, c'était un moment complètement magique pour moi. Au même moment que l'arrivée du Bellem, on l'a joué avec l'orchestre de l'Opéra de Marseille. Et moi, je me suis mis avec mon groupe à côté, j'étais au piano. C'était vraiment un moment fou, surtout que moi, la conception de ce thème, de ces quelques notes, au départ, en tout cas, c'est quelque chose de très intime. C'est moi tout seul avec mon piano dans un studio. C'est souvent... très, très solitaire comme exercice. Puis après, petit à petit, je l'ai fait écouter à Thomas Joly, à Tony Estanguet, à Thierry Auboul, à tous les gens avec qui je travaille au quotidien. Et ça a monté. Je l'ai fait jouer par l'Orchestre National de France, par des chœurs, par beaucoup. Il y a plus de 500 musiciens qui ont joué en tout sur cette bande originale. Donc c'est vrai que voilà, ça a été crescendo jusqu'à hier.
Et comment on s'y prend pour composer un hymne des JO? Est-ce que vous avez eu des consignes particulières, des mots-clés? De quoi on s'inspire?
Non, franchement, on s'y prend comme si on écrivait une chanson, enfin une grande chanson. Donc j'ai fait vraiment comme je suis comme en fait un artisan. En fait, c'est vraiment fait à la main, je dirais. C'est-à-dire que je le fais vraiment, voilà, avec mes outils classiques. C'est-à-dire voilà, je vous dis au piano, etc. Au début, je me suis pas forcément dit je suis en train de composer l'hymne des Jeux. C'est en fait au fil de l'écriture, au fil de l'eau. Le thème prenait vraiment de l'ampleur et je me disais, mais là, je tiens vraiment quelque chose de fort, j'ai l'impression. Et j'ai commencé à m'imaginer tout ça et puis j'en ai parlé à Thomas Joly, à Tony Estanguet, etc., qui l'ont choisi. Mais c'est vrai que dans mon écriture, je pensais à toutes les émotions du sport, que ce soit évidemment le moment de la victoire pour les athlètes, mais aussi celui de la défaite, le moment des spectateurs quand ils rentrent sur le stade, etc. Enfin, toutes ces choses, c'est vraiment des moments en fait narratifs qui sont très forts et très inspirants pour un compositeur.
Parce que Victor Lemoine, vous êtes aussi le directeur musical des cérémonies donc d'ouverture, de clôture des JO et des Jeux paralympiques. Il va y avoir d'autres surprises, non, j'imagine, d'un point de vue musical. Est-ce que vous pouvez nous en dévoiler quelques-unes là dès ce matin?
Malheureusement, non, je peux pas vous dévoiler de surprises parce que voilà, l'idée c'est que la surprise soit totale le jour de l'ouverture, par exemple du 26 juillet 2024. Mais oui, je suis en charge de ça.
Mais alors, juste sans nous dévoiler de surprise, Victor Lemoine, est-ce que ce matin, tout est prêt? D'un point de vue musical, il n'y a plus une note qui va bouger jusqu'au 26 juillet? Tout est calé à la seconde près, d'un point de vue musical, pour la cérémonie d'ouverture?
On est encore dans les répétitions. Thomas Joly est encore en train de voir pour les costumes, la danse, etc. Donc oui, le gros du truc est là, bien sûr, mais évidemment, ça peut encore tout à fait bouger parce que il faut s'adapter jusqu'au bout, jusqu'au 26 juillet, on va s'adapter. Il faut être élastique, en fait, jusqu'au bout. Et puis, le jour J, c'est ça qui est magnifique, si je parle de la cérémonie d'ouverture, oui, c'est que c'est une performance unique. C'est pas quelque chose qu'on va faire deux fois.
Oui.
C'est quelque chose qu'on va faire une fois. Donc, et on peut pas, évidemment, la répéter sur place pour les raisons qu'on imagine. Donc tout doit être
un secret très bien gardé, tout doit être millimétré. Et Victor Lemoine, bon, pour patienter en attendant, on a donc cette parade qu'on a découverte hier, qui fait l'unanimité depuis hier. On en profite encore un peu sur RMC. Merci d'avoir été avec nous en direct, Victor Lemoine, pour nous dévoiler les coulisses de cette composition. On a retrouvé aussi Eric Dimeco en direct depuis Marseille. Alors Eric, toi aussi tu l'as découverte comme nous, hein, cette parade, cette hymne officielle des JO. T'en penses quoi, Eric, de la bande son des Jeux?
Oh, tout était parfait hier, hein. La musique aussi, bien sûr, qui est très solennelle, hein. Très JO compatible et superbement composée, du coup. Puis les images de Marseille avec la parade dans la rade, là, j'ai trouvé ça merveilleux. Superbe pub pour notre ville, et puis tout, quoi. Et le concert de soprano hier soir, qui est quand même un de nos ambassadeurs les plus aimés. Qui a été super parce que je l'ai regardé du coup.
Il y a un point musical qui a fait un peu débat, on l'a vu ce matin nous au 32-16 dans les messages sur l'appli RMC, c'est le choix de Jul pour allumer le chaudron. Est-ce qu'à Marseille hier soir ça a fait l'unanimité ou est-ce que voilà, on a senti certains qui regrettaient par exemple l'absence de Zidane?
Oui, ouais. Non, mais le problème c'est ça, c'est que le nom de Zizou a circulé longuement, j'étais persuadé que c'était lui. Je trouvais que c'était l'ambassadeur de notre ville, hein, sportive. Hein. Il aurait pu avoir Eric Cantona. Basile aurait pu avoir ce rôle-là aussi, bien sûr. Mais il n'est pas marseillais, Basile. Donc, c'est vrai que je pense que la déception vient de la surprise parce que tout le monde entendait Zizou. Voilà. Après, Jules, c'est aussi un ambassadeur de la ville. Hein.
Mais et bon, puis, alors aujourd'hui, il n'y a pas de polémique. Eric Dimeco, Jean-Pierre Papin, Didier Drogba, Soprano, ce soir, tu nous disais, Eric, tu seras à 19h09, hein, j'ai bien noté, au Vélodrome. Est-ce que tu sais précisément qui te donne la flamme et à qui ensuite tu la transmets?
Alors non, bah, j'ai fait à partir de 17h, là, donc j'apprends des infos en t'écoutant d'ailleurs, puisque ou en écoutant BFM, puisqu'on m'a dit que j'allais être l'avant-dernier relayeur donnant la flamme à Didier Drogba.
Oui, c'est ce que j'ai comme info pour l'instant, mais je voulais savoir si t'en savais plus sur qui te l'a donné juste avant toi.
Ouais, mais tu sais, on apprend souvent des trucs par la presse avant de les savoir nous-mêmes. Hein, même dans le foot, des fois, on apprend à connaître le tiré alors qu'on ne le sait même pas. Donc,
Eric Dimeco, est-ce qu'il y a eu un entraînement particulier? Est-ce que ça fait des semaines qu'on répète, je sais pas, avec un bâton? J'entendais Giroud dire qu'il s'entraînait avec une brique de lait pour porter cette flamme qui pèse quand même un peu lourd.
Non, moi je me suis surtout entraîné à courir un petit peu, parce qu'on peut marcher, mais j'aimerais bien courir un peu. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus couru, parce que j'ai des gros problèmes de jambes dus à un accident de voiture, et puis au foot, l'arthrose, tout ce que c'est. Donc, je serai sous anti-inflammatoire, et puis je trottinerai un petit peu. Mais vu qu'il n'y a que 200 mètres à faire, je vais peut-être marcher, parce que j'ai envie de profiter du moment.
Eric, bouge pas, on va profiter, on va justement débriefer avec l'une des premières relayeuses de la flamme, c'est Colette Cataldo, qui est en direct avec nous, avec Julien Richard.
Oui, Colette Cataldo qui vient de porter la flamme et qui est avec nous. Colette, quelle émotion vous avez ressenti là?
Une émotion intense parce que c'est pas arrivé à tout le monde, c'est pas tout le monde. Bon, on est une centaine à la porter à Marseille, mais c'est sans de favoriser quoi.
Des mains de Basile Boli.
Alors Basile Boli, justement, Eric, j'ai dit Eric, voilà, ça a été mon collègue tout le matin, il a fait attention à moi plus que toi.
Parce que je crois qu'elle a un message pour toi, Eric.
Oui, j'ai entendu
Eric,
Colette.
J'aurais aimé vous avoir tous les deux, tu le sais. Toi et Didier Deschamps, c'est les trois plus que j'aime bien. Les souvenirs d'avant. Mais j'ai eu la chance de tenir la Coupe d'Europe. Alors voilà, la flamme, ça a été l'apothéose.
Colette, quand même, pour Marseille, c'est incroyable ce qui se passe là depuis hier et
aujourd'hui.
Ah oui,
surtout qu'il y a eu 200 et quelques mille participants. Et en plus, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu. On a été une ville de tolérance et d'exemple hier. Voilà, comme ça doivent se passer les grandes fêtes.
Vous êtes fier?
Ah ouais, je suis fier d'être marseillaise, franchement.
Merci beaucoup,
et
Colette.
La fierté de Colette Cataldo qui vient de porter la flamme. Et donc ce soir, Eric la portera aux abords du stade Vélodrome.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Et le témoin RMC, c'est vous, Alain Abadi. Bonjour.
Eric Abadi, merci.
Eric Abadi, pardon. Monsieur Abadi, on va dire. Chef voilà. Abadi, vous tenez le restaurant d'altitude qui va accueillir tout à l'heure Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping. Ils viennent déjeuner dans ce restaurant, pas comme les autres. Hein, ça s'appelle l'étape du berger. C'est à la Mongie, dans les Hautes-Pyrénées.
Au col du Tourmalet,
je ne me trompe pas, 2150 mètres.
Du Tourmalet.
Non, mais j'ai dit Tourmalet. Pourquoi j'ai dit Tourmalin?
Oui, vous avez
non. Alors, mais parce que Tourmalet, ça me plaît, Tourmalin. Alors on reprend. Eric Abadi, le col du Tourmalet, 2150 mètres d'altitude. C'est Xi Jinping et Emmanuel Macron. Voilà. Il vous a choisi parce que c'est un restaurant qu'il aime particulièrement, qu'il connaît bien, où il vient depuis son enfance. Hein.
C'est ça. Ça fait une trentaine d'années qu'il vient chez nous.
Vous imaginez un jour recevoir le président chinois?
Ah non, du tout. Le président français, oui, puisque je le reçois régulièrement. Mais le président chinois, ça a été bien sûr une surprise. Alors, on en avait parlé quand il est venu au mois de février ou mars.
Ouais.
Il m'a dit, j'aimerais te faire venir le président chinois. Bon, bah, écoute, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Mais après,
comment on se prépare à ça?
Oui, comment ça se prépare pour autre chose hein. Vous savez, je ne fais rien d'exceptionnel, je fais ce que je sais faire. Hein.
Alors, c'est quoi que vous savez faire?
Eh bien, ma cuisine du terroir, donc on va mettre de la garbure, de l'agneau de lait confit, ce qu'on fait habituellement. On a des produits qui sont reconnus au niveau international, puisqu'on a le porc noir, c'est un des meilleurs jambons au monde. Donc après, bon, on n'a pas besoin d'artifice, on n'a pas besoin de tout ça, donc on met nos produits en avant.
Donc, agneau de lait confit, porc noir.
Oui, il y a des épaules d'agneau, il y aura des épaules d'agneau, il y a du jambon de porc noir, il y a des haricots tarbés, et après, bon, il voulait une tarte aux myrtilles, donc on y a fait une tarte aux myrtilles, voilà.
Ah, c'est le président qui vous a appelé pour vous demander le menu?
Non, on en a discuté ensemble, après, bon, voilà, il sait ce qu'on mange chez nous, donc il m'a dit, Eric, vas-y, tu fais. Et moi, je lui ai proposé en plus la verdure parce qu'il voulait pas la verdure, mais j'ai dit, écoute, c'est le plat typique, surtout que bon, il fait pas faire trop chaud, donc la verdure, ça va être d'actualité. Donc, comme il y a la verdure, il mangera un peu de verdure aussi.
Il va pas faire trop chaud, effectivement. Est-ce que la vue est dégagée, là, aujourd'hui? Bof, hein.
Mais la vue, pour le moment, elle est dégagée, mais bon, le temps, vous savez, parler du temps, c'est perdre son temps, et on le verra au moment.
Oui. Vous verrez bien sur le moment, ça peut être non, changeant.
Ça peut être magique comme hier. Hier, ils avaient annoncé mauvais. On a eu des éclaircies, on a eu la vue. Après, vous savez, il suffit qu'il passe 2 heures de temps. Tu peux avoir le brouillard comme tu peux avoir le beau temps, surtout à cette époque.
Oui, donc il faut qu'ils s'installent tranquillement et qu'ils attendent que le soleil revienne. Ouais. Quoi.
Voilà, hein? voilà.
Éric Abadie, est-ce qu'ils vont chanter?
Mais disons qu'on a un petit groupe de chanteurs là qui vont chanter à la quand ils repartiront. Hein. Après on a les pastorelles qui sont là pour recevoir les deux présidents. Les pastorelles c'est un groupe folklorique de chez nous, hein, de campagne. Ouais. Et donc ils seront là pour accueillir nos présidents. Et après bon, quand ils repartiront, je pense qu'ils feront le refuge comme ils font chaque année, comme à chaque fois qu'ils viennent chez nous.
Comme à chaque fois qu'il vient chez vous, et effectivement, ouais. À chaque fois qu'il vient chez vous, on connaît les images. Hein. Finalement, la France entière a fini par s'habituer à vos chants, à connaître presque vos menus par cœur, puisque chaque année, en effet, il vient faire étape, et même parfois plusieurs fois par an. Éric Abadie, ses chants, il les chantait. Vous connaissez la famille Macron depuis des dizaines d'années.
Oui, ça fait une trentaine d'années. Il venait avec ses grands-parents à l'époque. Il venait avec ses grands-parents, donc ça fait une trentaine d'années que je le connais.
Charles.
Et Éric Abadie, est-ce qu'il y a eu des consignes, que ce soit sur le menu ou même sur l'accueil, le protocole du côté des Chinois?
Non, mais sûr que le protocole, il y a des choses, puisque bon, déjà, c'est pas la même culture. Donc après, bien sûr, il y a toute cette sécurité qui se met en place. Mais sinon, après, non, les